Radio Okapi.
Le journal de Belinda Bosuma. Environ 26 000 déplacés de retour dans leur village dans Bidjombo, Sud Kivu. Ils avaient fui depuis avril dernier suite aux tensions communautaires. Présentation hier à l'Assemblée nationale du projet des finances pour l'exercice 2019. Il est chiffré à plus de 6 milliards de dollars, soit une régression comparée à l'an dernier. Pour l'opposition, ce budget présenté par Bruno Tshibala ne reflète pas la réalité du pays. Et puis, l'invité de ce midi, David Diatezoa, président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo. Il parle notamment du conflit persistant entre le ministère de l'EPSP et celui de la formation professionnelle. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Sud Kivu. Il s'observe depuis septembre dernier un début de retour des déplacés qui avaient fui leur village en groupement de Bijombo dans les hauts plateaux d'Uvira. Selon la note d'information humanitaire de Otcha du 23 octobre, environ 26 000 déplacés sont déjà retournés dans leur village situé dans 6 aires de santé au nord et au centre de Bijombo. Cela représente 60% des 43 000 habitants de la région qui avaient fui leur milieu d'origine, un mouvement qui date d'avril dernier suite aux tensions communautaires. Michel Chirimouami nous en dit plus.
Selon la même source, les retours de déplacés s'observent dans les villages de Muramvya, Chanzovu, Masata, Mugogo, Masango et Magunda, situés dans le nord et le centre du groupement de Bijombo. Le retour des déplacés est dû à la calmie observée ainsi qu'aux actions de réconciliation menées entre les communautés en conflit organisées par les leaders locaux. La réponse humanitaire en faveur des personnes affectées par la crise de Bijombo se poursuit. En revanche, et dans le cadre d'une allocation première urgence, 2,2 millions de dollars américains ont été alloués par les fonds humanitaires pour répondre aux besoins prioritaires des 30 000 personnes identifiées comme les plus vulnérables. Les fonds sont affectés pour couvrir les secteurs de la sécurité alimentaire, des articles ménagers essentiels, de la santé, de la nutrition, de l'eau, hygiène et assainissement. Bukavu, Michel Chimwami, Radio Okapi.
Entre-temps, dans la province du Lualaba, plus de 200 familles refoulées de l'Angola, arrivées depuis près d'une semaine à Dilolo, disent vivre dans des conditions difficiles. Selon leurs témoignages, la plupart sont originaires soit de Bandundu, de Kinshasa ou encore des anciennes provinces du Kasaï. Certains vivaient en Angola depuis plusieurs années et sont en ordre avec la migration de ce pays, disent-ils. Ils plaident auprès du gouvernement congolais pour leur prise en charge. L'un d'eux témoigne au micro de Madeleine Waila.
Où est-ce que tout le monde qui soit ici, il avait des documents? Il y a même les gens qui ont fait sur ces 25 ans, 28 ans. Les gens qui ont retrouvé pour les points de Kamanata sont au niveau de Kamako. Nous sommes de Luanda, de Wambo, de Bié, de Mbengela, de Saorim. Il y a les gens qui ont laissé leur maison, les entreprises, les cantines. Tout le monde avait ses activités. Comme moi, je vous parle, là, moi, j'ai fait 10 ans en Angola. J'ai mes documents. Quelqu'un qui a fait 10 ans dans votre pays, tu l'as donné les documents, tu les chasses. Ça, c'est normal. C'est pas normal, ce que l'Angola fait. Parce qu'on a tout laissé. On nous a maltraité parce que la façon les Angolais nous ont traité, on ne sait pas traiter les gens d'une manière comme ça. Ils ont beaucoup frappé, ils ont la vie, tout ce que nous avons, des téléphones, des habits, l'argent. Donc, on est sorti comme ça. Comme moi, l'habit que j'ai porté, j'ai fait avec toi et moi. Parce qu'on m'a pas arrêté depuis le 2. C'est le gouvernement qui nous soutenir. Nous avons un effet, c'est quelque chose. On mange pas. Depuis qu'on est arrivé, on mange seulement des mangas. Il y a même les femmes qui ont sorti avec les enfants. Il n'y a personne qui a recevé un effet 15 dollars ou 5 000 francs.
L'administrateur de Dilolo signale que ces refoulés arrivés en masse seront installés au foyer social. Le gouvernement du Lualaba dit avoir facilité le déplacement de ceux qui sont arrivés avant et qui auraient des membres de famille à Kolwezi ou à Lubumbashi. Dans l'actualité aussi, l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo Anapeko qui dénonce la persistance du conflit entre le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et celui de la formation professionnelle, métier et artisanat. En effet, les gestionnaires s'émènent une guerre ouverte en empiétant sur les attributions des uns et des autres avec comme cible les chefs d'établissement. L'ANAPECO l'a fait savoir au cours de l'Assemblée générale tenue le week-end passé à Kinshasa. Cette association déplore également la confusion entretenue dans l'organisation de l'examen d'État où les enfants sont victimes des ponctions de frais de scolarité. À l'issue de la rencontre, le président national de l'ANAPECO a fait quelques recommandations. David Diatezoa dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Koko.
Au sujet du conflit entre l'EPSP et la FPMEA, les parents demandent au comité national de continuer à insister pour que chaque ministère respecte ses attributions. Les parents doivent refuser de payer à un service autre que l'inspection de l'EPSP les frais de participation aux examens d'État. Le comité national doit approcher plus étroitement le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat, qui doit dissiper les appréhensions selon lesquelles l'ANAPECO serait contre ce ministère dont nous avons salué l'avènement. Exiger la clôture de l'année académique à l'UNIKIN car les parents avaient déjà payé en totalité les frais de scolarité de l'année scolaire et académique 2017-2018 et demander au ministre de tenir compte du mémo lui destiné par l'ANAPECO.
Direction le Kasaï central. Un détenu est décédé hier à la prison centrale de Kananga, poursuivi pour mouvement insurrectionnel. Kengai Chikele, 61 ans, a eu des malaises cardiaques tôt le matin d'hier et présentait des signes de fatigue intense, rapporte des sources pénitentiaires. S'est confiant à Radio Kapi, le directeur de la prison centrale de Kananga confirme ce cas de décès et dit prendre des dispositions nécessaires pour l'inhumation du défunt. César Kisimba est au micro de Blaise Ndongala.
J'ai été aussi informé juste quand je sortais pour aller à la rencontre de mon chef. En route, on m'a appelé pour dire qu'il y a un détenu qui est décédé au dispensaire de la prison centrale de Kananga. Le message, c'est le message d'enterrement. Pour nous, il y a toute une procédure. Comme il s'agit d'un détenu préventif ou provisoire qui est décédé à la prison, je dois me référer à la loi. La loi, elle est très claire. Lorsqu'il s'agit d'un décès, d'un détenu provisoire, il faut d'abord informer l'autorité qui a arrêter quoi les détenus. Et c'est ce que nous allons faire. Et après cela, on verra comment poursuivre avec la procédure normale. Pour les cas échéants, le dossier est fixé devant les tribunaux militaires de garnison. Donc là, tout à l'heure, là, je suis en train de rédiger la lettre pour informer les présidents du tribunal militaire de garnison pour des formalités.
Ce nouveau cas ramène à 2 le nombre des décès enregistrés en une semaine dans cette maison carcérale, des cas qui relancent la problématique de prise en charge médicale des détenus à la prison centrale de Kananga. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Bruno Tshibala a présenté hier à l'Assemblée nationale le projet des finances pour l'exercice 2019, projet estimé en recettes et en dépenses à plus de 6 milliards de dollars. Ce budget connaît une régression de 0,1% par rapport au budget 2018, une régression justifiée par la baisse substantielle des recettes extérieures et celle du budget annexe, a affirmé le Premier ministre. Pour Bruno Tshibala, ce budget est élaboré dans un contexte politique particulier. Ces propos ont été recueillis par Michel Kifindangoy.
Le projet de loi de finances de l'exercice 2019 s'élabore dans un contexte caractérisé notamment par les faits ci-après. Sur le plan politique et sécuritaire, l'organisation imminente des élections présidentielles, législatives et provinciales, la persistance de foyers de tension dans l'Ituri et le Kasaï, ainsi que la résurgence des groupes armés dans le Nord Kivu. Sur le plan économique, financier et social, la stabilité du cadre macroéconomique attestée par le ralentissement de la dépréciation de la monnaie nationale et la décélération du rythme des formations de prix intérieurs, l'entrée en vigueur du code minier révisé, le bon comportement des cours des produits miniers et pétroliers, ainsi la configuration des recettes s'articule de la manière suivante. Recettes du budget général, un taux d'accroissement de 7,6%. Recettes des budgets annexes, une régression de 81,5%.
Un débat s'est ouvert après la présentation de l'économie du budget par le Premier ministre. Plusieurs députés ont critiqué ce budget. Pour l'opposition politique, ce budget ne reflète pas la réalité de la RDC et n'est pas susceptible d'accompagner la politique du gouvernement. La majorité présidentielle, elle, salue le budget tel que présenté par le gouvernement et plaide pour l'amélioration du budget alloué à la santé ainsi qu'à l'éducation. Michel Kifinda.
La plupart des députés de la majorité présidentielle ont jugé réaliste le budget 2019 présenté par le Premier ministre. Pour Richard Mayaya de l'AFDC, un budget conséquent devrait être alloué au secteur de la santé et de l'éducation.
Le plus important, c'est la santé. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas travailler. Quel est le budget alloué à la santé ? Parce que même à l'éducation, ce qui avait été prévu en 2018, on n'a pas retrouvé. Qu'est-ce qui s'est passé?
De leur côté, les députés de l'opposition jugent ce budget irréaliste et plaident pour son rejet catégorique. Édouard Kiovekola de l'UNC.
C'est une insulte. Tout simplement, puisque nous avons un gouvernement incapable de mobiliser les recettes. Le budget nous présenté ici, pour d'autres siens, c'est un budget d'une équipe de football. C'est pour cette raison que moi j'ai pensé que le budget qui nous a été présenté devrait être rejeté.
Après débat, le président de l'Assemblée nationale accorde 48 heures au Premier ministre pour répondre aux questions des élus du peuple.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons ce midi David Diatezoa, président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo à Napeko. Il déplore le conflit qui persiste entre le ministère de l'EPSP et celui de la formation professionnelle, métier et artisanat, ainsi que le désordre qui a élu domicile dans l'organisation de l'examen d'État. Ces questions ont été évoquées au cours de l'Assemblée générale de la Napeko tenue le week-end dernier à Kinshasa. David Diatezoa s'entretient à ce sujet avec Jean-Pierre Ilali Koko.
David Diatezoa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez organisé votre assemblée générale le week-end dernier. Quel en était l'objet?
L'objet de cette assemblée générale extraordinaire, c'était de scruter un peu la situation, l'état du secteur de l'éducation dans notre pays, et pour déplorer ce que nous constatons.
Il y a quelques mois, la NAPECO a porté plainte à la Cour constitutionnelle contre le Premier ministre, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement professionnel, les accusant d'être à la base du conflit entre le ministère de l'EPSP et celui de la formation professionnelle. Où en est-on aujourd'hui, monsieur Diatezoa?
Effectivement, la plainte a été déposée contre le Premier ministre à la Cour constitutionnelle. Maintenant, nous attendons les différents échanges des dossiers entre les avocats de la République et notre avocat. Comme ça, l'affaire sera fixée et on pourra plaider.
Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, rappeler le nœud du conflit?
Oui, le nœud du conflit est que le président de la République avait créé en 2014 un ministère appelé enseignement technique et professionnel qui, malheureusement, pour diverses raisons déjà évoquées, ce ministère n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un cafouillage. Les animateurs qui étaient là-bas avec les collaborateurs qui s'étaient donnés n'ont pas pu conduire à bon port ce ministère. Comme ça que le président l'a supprimé. Et en 2016, répondant aux attentes de la population, le président a créé le ministère de la formation professionnelle, métier artisanat, pour que ce ministère puisse récupérer tout ce trop-plein de gens que vous voyez dans la rue pour leur donner un métier afin qu'il soit utile pour eux-mêmes et pour le développement du pays.
D'où vient le conflit?
Maintenant, le ministère de la formation professionnelle a pensé qu'il devait s'accaparer les attributions de l'ancien ministère qui était supprimé, le ministère de l'ETP. Donc ce n'est pas un ministère de l'ETP bis qu'on a créé, mais un nouveau ministère avec des attributions spécifiques. Malheureusement, comme ce ministre a gardé les bons, même mauvais collaborateurs, eh bien, ils sont en train de travailler sur les plates-bandes du ministère de l'enseignement technique et professionnel qui n'existe plus, parce que le ministère de l'EPSP a recouvré toutes ses prérogatives en ce qui concerne l'enseignement classique débouchant sur l'examen d'État. C'est là le nœud du problème.
Alors, quelles conséquences ces conflits ouverts a-t-il sur les chefs d'établissement, les parents et les élèves?
Et la conséquence, la première, c'est que nos amis qui n'étaient pas suffisamment bien positionnés au ministère de l'EPSP ont sauté sur l'occasion pour devenir qui inspecteur général, qui inspecteur général adjoint. Donc, ils ont fait à leur niveau pour assouvir leurs ambitions personnelles. Mais maintenant, en ce qui concerne les élèves et les parents, ils viennent semer le désordre sur les plates-bandes du ministère de l'enseignement primaire et secondaire qui doit régenter toutes les options, y compris les sections techniques. Le ministère de la formation doit maintenant créer des écoles de formation professionnelle pour récupérer tout ce monde qui est en train de divaguer et en même temps concevoir des modules de formation pratiques pour que ces enfants puissent bénéficier d'une formation assistée et conforme aux aspirations de leurs compétences. Maintenant, il faut croire que la NAPECO est contre ce ministère. Au contraire, nous saluons l'avènement du ministère de la formation professionnelle, justement pour récupérer tous les enfants qui déambulent, qui ne font rien, sont des chailleurs, sont des coulounas, et même les anciens qui n'ont pas pu trouver du travail jusqu'ici. Donc, il n'y a pas un conflit entre la NAPECO et le ministère de la formation professionnelle. Celle de la formation professionnelle qui ne sait pas faire son travail selon les attributions qui lui sont conférées par le chef de l'État.
Que recommande l'ANAPECO pour mettre fin à ces conflits?
Les parents nous ont recommandé samedi après notre assemblée générale extraordinaire de préparer un mémo pour l'adresser au ministre de la formation professionnelle, lui montrer ce qu'il devrait faire parce que on constate que son cabinet et son administration ne l'aident pas à faire son travail. Donc l'ANAPECO va essayer d'orienter le ministre pour qu'il se ressaisisse et que ce conflit cesse.
David Diatezoa, je vous remercie.
Merci monsieur le journaliste.
Voilà, c'était le président de l'ANAPECO qui s'entretenait avec Jean-Pierre Elali. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.